Chapitre 4. Dans la demi-pénombre de la rue Jörngräder, de minuscules flocons de neige tournoient sur l'asphalte. Yuna a l'impression de diriger lentement un bateau à moteur le long d'un canal gris. Il se dit qu'il n'est pas rare que des meurtriers soient retrouvés sur les lieux du crime, drogués ou ivres, pétris d'angoisse ou paralysés par leur acte. Mais Hugo Sand était en train de dormir sur le sol ensanglanté, avec pour seul oreiller un bras coupé. Yuna passe devant le département de neurosciences et tourne au niveau du bâtiment en briques du centre de médecine légale, où des bougies électriques de l'avant brillent à chaque fenêtre. La Porsche blanche de l'aiguille est garée à quelques mètres d'une borne de recharge penchée, entourée de fragments rouges d'un feu arrière brisé. Yuna se gare, sort de la voiture et inhale l'air froid. Il est un peu inquiet pour Valeria et essaie de l'appeler, mais il est immédiatement redirigé vers la boîte vocale. Elle est partie au Brésil pour s'occuper de sa mère. La mort de son père ne l'a pas surprise, mais sa mère a soudainement sombré dans la confusion face au vide laissé par son mari. Yuna monte les marches en béton, franchit la porte bleue et voit Lisette Josephson déjà installée dans le canapé près de la réception. À la demande du parquet, Yuna va l'assister dans l'enquête préliminaire qui va essentiellement consister à rechercher les preuves nécessaires à l'inculpation de Hugo Sand. Il se salue et Yuna s'assied face à elle. Elle jette un coup d'œil à l'écran de son téléphone et dit sur un ton presque détaché qu'elle a le temps de lui faire une petite mise à jour de la situation.
« Tu voulais savoir pour les caméras de surveillance ?» dit-elle d'un ton fatigué. « Le propriétaire du camping a accidentellement effacé la totalité du disque dur en essayant de sauvegarder la vidéo. »«
Est-ce qu'on peut la récupérer ?»«
Apparemment pas, d'après notre équipe technique. »«
D'accord. » À travers les murs, on entend du hard rock, des batteries, des basses et des guitares.
On a interrogé la femme de la victime, Yasmine. Elle dit qu'elle n'a aucune idée de ce que Joseph faisait dans la caravane, mais son ordinateur était plein de cookies provenant d'un forum d'achat de services sexuels, avant qu'il ne reçoive un message lui proposant de télécharger Tor et de basculer sur le Darknet.
Et c'est là que s'arrête la piste, dit Yuna.
Sauf que Hugo Sand utilise aussi Tor, donc il est fort possible qu'il y ait eu des échanges entre eux.
Lisette sort une pile d'environ 400 pages de son grand sac et la dépose sur la table.
Ce sont les SMS de Hugo, des mises à jour, des communications téléphoniques, etc.
Tu as tout lu ?
Bien sûr, répond-elle.
Qu'est-ce que tu en penses ?
Qui est Hugo ? Demande Yuna. Je vois un jeune homme qui s'exprime bien. « Assez narcissique et plutôt irresponsable, » commence Lisette. Il vit chez son père Bernard et la compagne de ce dernier, Agnette Ancomo. Il a eu quelques aventures sexuelles brèves avec différentes femmes. En ce moment, il est avec une certaine Olga. Il prévoit un voyage et essaie de rassembler l'argent nécessaire. Hugo ne figure dans aucun de nos fichiers, il y a certes quelques traces de consommation de drogue, mais sinon rien de grave. Pas de criminalité majeure, pas de violence... Pas d'extrémisme. On a trouvé des traces de benzodiazépine dans son sang, mais qui sont loin d'être suffisantes pour qu'il s'endorme sur la scène du crime.
Quel serait son mobile ?
Ce n'est pas encore clair, mais je vais suivre l'hypothèse d'un crime homophobe, répond-elle. Hugo a donné rendez-vous à la victime pour lui vendre du sexe, ou juste pour le voler. Ils se sont retrouvés dans la caravane, et soit le crime a eu lieu aussitôt, soit le fait que l'homme s'approche de lui a déclenché une colère incontrôlable chez Hugo.
Est-ce qu'il y a des éléments qui laissent envisager l'homophobie ? Demande Yuna en posant sa main sur les documents.
Non, mais on continue à chercher. Shaya Aboulela, la nouvelle assistante de l'aiguille, s'approche d'eux et les salue brièvement en leur serrant la main. Shaya a un visage étroit, assez sévère, avec des sourcils noirs bien arqués, des yeux bruns clairs et une bouche pulpeuse. Ses cheveux sont couverts par un hijab jaune pâle
et sa blouse de médecin ouverte laisse apparaître un chemisier jaune avec des broderies et un jean taille basse. « Le maître vous attend, » dit-elle avec un sourire en coin. Ils la suivent dans le couloir. « Je suppose que tu as déjà vu des morts, » dit Chaya à Lisette, « mais je tiens à te prévenir que celui-ci est particulièrement pénible à regarder. » « Je vois des cadavres plus souvent que mes enfants, » répond Lisette sèchement. Chaya ouvre les lourdes portes de la salle d'autopsie. La lumière à l'intérieur est d'une netteté irréelle. Elle se reflète sur les tables d'autopsie, les éviers, les robinets et les tamis. Revêtue de sa blouse, l'aiguille attend au centre de la pièce. Son nez est étroit et légèrement bosselé, et ses lèvres sont fines. Le reflet des néons forme comme un collier de perles dans ses lunettes de pilote. L'aiguille est professeur à l'Institut Karolinska, et c'est l'un des plus grands experts mondiaux en autopsie médico-légale. Sur la longue table blanche, les restes de Josef Lindgren ont été alignés et numérotés pour être photographiés et enregistrés. Yona et Lisette s'approchent lentement du corps. On dirait la variation chaotique d'une dissection classique. La tête, les bras et les jambes sont séparés du tronc. Le démembrement de la victime a été extrêmement violent et a commencé alors qu'elle était encore en vie. C'est lui qui a causé la mort. Une partie de la tête est toujours attachée au tronc par le cou, le bras droit est coupé juste au-dessous de l'épaule, le bras gauche au niveau du coude, et les deux jambes ont été brutalement sectionnées. Comme vous pouvez le constater, nous avons séparé les parties les plus importantes, et nous avons essayé d'organiser les plus petites dans une logique anatomique, explique Chaya à Lisette. La main droite avec le bout de l'index, les dents cassées et les fragments d'os de la mâchoire, ici. La voix de Chaya s'estompe, tandis que Yuna s'installe dans un état d'hyperconcentration pour ne rater aucun détail. Il observe les dégâts sur le torse. Avec précision, il enregistre le moignon du bras, les plaies au niveau des côtes et du cou, et les zones déchiquetées à l'endroit où se trouvaient les cuisses. Une des jambes est intacte et porte une chaussette au pied, tandis que l'autre est découpée en cinq parties. Le haut du crâne, où apparaissent encore les cheveux décolorés, montre une blessure par écrasement au niveau de la tempe. La majeure partie du visage est restée attachée à la partie inférieure de la tête. Des muscles flasques pendent du cou. Centimètre par centimètre, Yuna passe en revue les coupures, les lacérations superficielles et les entailles. Une blessure court en diagonale au niveau de l'estomac, une autre traverse l'épaule en ligne droite. « Je suppose que vous vous demandez comment la victime a été tuée » entend-il demander l'aiguille. « Oui, » acquiesce Lisette. « Quel a été le premier coup, celui qui a été fatal ?» poursuit-il. « Le déroulement de l'agression, le nombre de blessures. » Yona s'attarde sur chaque hématome et sur les légères lividités sous la peau, là où elle a été en contact avec le sol. « Vous avez déjà des hypothèses ?» demande Lisette en regardant l'aiguille. « Oui, bien sûr. Mais j'ai appris à laisser Yuna trouver la sienne en premier, » répond-il. « Excuse-moi, mais tu sais que Yuna a accès à moins d'éléments que moi, » dit-elle. « Il ne s'agit pas d'une compétition. Mais Yuna a un très bon œil, » explique l'aiguille en remontant ses lunettes sur son nez. La procureure sourit d'un air provocateur et fait un geste en direction de Yuna. Il est clair que la victime et le meurtrier se sont vus avant le début des violences, commence Yuna.
Tu es sûr de ça? Demande-t-elle.
Oui, parce qu'ils se tenaient l'un en face de l'autre, répond-il.
Comment le sais-tu?
Parce que la première attaque est venue de devant, répond-il. La hache devait être dissimulée, le plat de la lame est venu frapper notre homme à la tempe gauche. Un coup violent qui l'a assommé, puis il s'est effondré sur le côté. Il était déjà sonné lorsque l'agresseur lui a sectionné la jambe droite à même le sol.
Lisette secoue la tête.
« Ça, tu ne peux pas le savoir, » dit-elle.
« Si je prends en compte les photos de la scène de crime qui m'ont été envoyées, oui, je peux, » répond Yuna. D'après les entailles sur le sol et l'angle des coups, on peut en déduire qu'il a fallu au moins 5 coups de hache pour séparer l'os du corps. Le sang est expulsé de l'artère sous haute pression, ça correspond aux éclaboussures claires qu'on voit en haut du mur dans la grande chambre.
« Il est énervant, hein ?» murmure Chaya à la procureure.
« La mutilation a été mortelle, » poursuit Yuna. « Cependant, dans ce cas, elle n'a pas été la cause directe de la mort. »«
Bravo !» murmure l'aiguille.
La victime a titubé vers l'arrière, essayant de se dégager et en même temps de stopper le flux de sang avec ses mains, poursuit Yuna. C'est le coup suivant, à la tête, qui l'a tué. Le reste des blessures fait techniquement partie du démembrement. Un silence de quelques secondes s'ensuit.
« Pourquoi avez-vous besoin d'un légiste ?» dit l'aiguille en souriant.
« Tu le sais très bien, » répond Yuna.
« Bon. » Tout en sachant que l'autopsie n'a pas encore commencé, je peux déjà vous dire qu'il y a au total 83 blessures et quelques entailles. Certaines mutilations ont nécessité des coups multiples comme l'éclatement du crâne. Le deuxième coup de hache, c'est-à-dire le premier qui a touché la tête, a tué Josef Lindgren, comme l'a dit Yuna. Mais il a fallu 4 autres coups de hache pour séparer le sommet du crâne.
Certains n'ont fait qu'entamer les chairs, « comme celui-ci, à mi-cuisse, » précise Chaya. Est-ce qu'il manque une partie du corps ?» demande Yuna.
« Oui. Curieusement, il nous manque 2 dents, » répond l'aiguille en se grattant la tempe.
« Tout le parking a été bouclé et on lancera des recherches avec les chiens demain, » dit Lisette.
« On retourne le tronc ?» suggère l'aiguille.
« Volontiers, » répond Yuna. Chaya et l'aiguille soulèvent le torse épais et le retournent doucement sur le ventre.
« Vous avez pu estimer l'heure de la mort ?» demande Lisette.
« D'après la température et la lividité, je dirais que le cadavre gisait là depuis près d'une heure lorsque les premiers policiers sont arrivés. »
« Vers 2 heures du matin dans ce cas, » dit Yuna.
« C'est ça. »
Tous les regards sont tournés vers le dos blessé. « Comment décririez-vous l'auteur du crime ?» demande Lisette.
Pas besoin d'une force physique incroyable pour faire ça. Une bonne condition physique suffit, répond l'aiguille.
Est-ce qu'un jeune homme pourrait faire ça?
Oui.
Dans son sommeil,